Europe 1.
17h, 18h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour et bienvenue sur Europe 1, c'est Clap qui démarre. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h pour parler cinéma. Merci d'être avec nous. Dans la première partie, on va vous donner toutes les news cinéma incontournables de la semaine et notamment les excellents chiffres du printemps du cinéma qui ont permis à Alibi.com 2 de devenir le plus gros succès de la carrière de Philippe Lachaud. Didier Alouche, notre correspondant à Los Angeles, nous livrera son JT d'Hollywood. Et puis, j'aurai le plaisir de recevoir une actrice incontournable dans le cinéma français. Plus d'une cinquantaine de films tout au long de sa carrière. Et 7 films rien que cette année, c'est Élodie Bouchez. Elle reviendra pour nous sur son rôle dans Je verrai toujours vos visages. Enfin, 2 visages, mais surtout 2 voix que j'aime voir et surtout entendre. Sophie Rosemont et Médio Maïs sont à mes côtés. Comme chaque semaine, nos spécialistes cinéma. Bonjour à tous les deux.
Salut,
bonjour
Laurie.
Alors, vous avez eu des coups de cœur cette semaine?
J'ai particulièrement aimé Le Bleu du Cafetan.
Petite passion pour John Wick 4.
Je connais pas. Non, je rigole. C'est évidemment la grosse sortie de la semaine. On en parlera en dernière partie d'émission. Voilà pour le programme de Clap qui commence maintenant.
Europe 1, 17h, 18h, Clap.
Si on vous passe cet air d'opéra, c'est parce que la news de la semaine après le cinéma, Cédric Lapiche, le célèbre réalisateur, évidemment, de L'Auberge espagnole, du Péril jeune ou encore plus récemment de Encore, va monter son premier opéra en reprenant ce chef-d'œuvre de Mozart, La Flûte enchantée. Ça sera au Théâtre des Champs-Élysées en novembre 2023. Alors c'est vrai qu'on sait, hein, il l'a beaucoup dit dans les interviews lors de la sortie d'Encore, que la danse, c'est l'une de ses passions. Son dernier film donc était une vraie déclaration d'amour à cet univers de la danse classique. Forcément, ce projet ne surprend personne, hein, Mehdi, Sophie.
Il ne surprend personne, ce projet, d'autant plus qu'il a effectivement réalisé plusieurs documentaires sur la danse classique et contemporaine, et que c'est un habitué des opéras au sens large. Et bon, La Flûte enchantée, c'est quand même un gros challenge. C'est quand même un opéra assez incroyable de 3 heures en 2 actes avec ce prince Tamino qui est vraiment démentiel. Mais je pense que Clapiche va parfaitement relever le niveau, d'autant que je tiens à le dire qu'il n'est pas tout seul sur ce projet. Il est avec François-Xavier Roth qui est un des plus grands chefs d'orchestre actuels.
Oui, juste pour ajouter une passion pour la musique, quand on regarde ses BO, ne serait-ce que celle de L'Auberge espagnole, on sent que, comme Cameron Crowe, pour ses films, lui, il les choisit avec passion. Et si je peux me permettre, Laurie, une petite pensée pour Catherine Froh dans Marguerite.
Oui.
Parce que ce petit air m'a rappelé Marguerite. Voilà.
C'est vrai aussi. Bon, et pour Cédric Lapiche, il n'est jamais trop tard pour une première. On a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, je rappelle que Encore, c'était l'un des gros succès de cette année, 10 nominations au César.
Connu, ça.
Oui, je n'avais pas envie de m'arrêter, excusez-moi. De l'opéra au western, il n'y a qu'un pas. Sublime musique, évidemment, d'Ennio Morricone. On se met tout de suite dans l'ambiance des westerns. Pourquoi ? Non, on ne va pas vous parler du Bon, la Brute et le Truand. Mais, à votre avis,
du moyen-métrage de Pedro Almodovar.
Exactement, intitulé Strange Way of Life. Le réalisateur espagnol a réalisé un western queer de 30 minutes dans lequel Ethan Hawke et Pedro Pascal sont en couple. Attention, aïe aïe aïe, un casting qui donne vraiment envie. Non, franchement, on adore ce duo.
Ah bah, Almodovar qui fait son Brokeback Mountain avec Ethan Hawke et Pedro Pascal qui est l'acteur du moment. En fait, il est partout, il est sur toutes les trends, sur TikTok, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, avec le succès notamment de The Last of Us. Donc oui,
et
moi
aussi Mandalorian.
Exactement, et j'ai très hâte de voir ça, voilà.
Ah, ça va être très sexy. Ils se retrouvent 25 ans après s'être aimés au fin fond du désert. Il y a 25 ans, ils étaient tueurs à gages. Enfin, le pitch fait très 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 envie tout de même.
Alors, c'est effectivement un peu sa réponse à Brokeback Mountain, hein, cette romance culte entre Jake Gyllenhaal et le regretté... Ouais.
Ça y est, je pleure. Ça y est, Laurie, je pleure. Heath Ledger.
Et le regretté Heath Ledger, qu'on aimait beaucoup. À l'époque, il avait refusé de réaliser le film. Et donc, finalement, c'est Ang Lee qui a récupéré le projet. Et là, voilà sa réponse. Mais alors, attention. Hein. Alors, tout ça, ce ne sont que des rumeurs. Pour le moment, le Festival de Cannes n'a rien confirmé. Mais effectivement, ce moyen-métrage pourrait être présenté en ouverture de la 76e édition du Festival de Cannes. Ce n'est pas confirmé officiellement et ce serait assez rare d'avoir donc un moyen métrage en ouverture. Et il pourrait être suivi d'un court métrage de Jean-Luc Godard pour rendre hommage à Jean-Luc Godard.
Alors, ça me paraîtrait complètement logique que Jean-Luc Godard soit à l'honneur cette année du Festival de Cannes. Ensuite, ce moyen métrage a été réalisé en collaboration avec Saint-Laurent, qui avait déjà projeté un film de Gaspard Noé, Lux Eterna, il y a quelques saisons.
Enfin, moi, je ne suis pas très fan de Godard, donc ça ne change rien à ma vie, mais en tout cas, j'aime
c'est
bien...
C'est vrai que Mehdi Omaïs n'aime particulièrement pas Godard, il aime bien le faire savoir, ce qui est très audacieux.
Mais oui, le Festival de Cannes adore Jean-Luc Godard.
Oui, bah, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est les supputations avant
alors,
le Festival
oui,
de Cannes.
Bah,
et donc, on est là, on se demande ce qui va y être, ce qui ne va pas être et tout, et ça fait partie du jeu. Et même le Festival de Cannes aime ça quand nous, on suppute.
C'est pour ça qu'on vous donne les rumeurs telles qu'on les a. Après, on vous informera de la suite des événements. Pour terminer notre petit tour d'horizon des news cinéma de la semaine. Un point sur le printemps du cinéma, on vous en a parlé samedi dernier, ça s'est déroulé donc de dimanche à mardi. Eh bien les chiffres sont bons, ça nous fait vraiment plaisir, c'est très encourageant. 2 350 000 tickets vendus à 5 € pendant ces 3 jours, ça veut dire 10% de mieux que l'année dernière et on voit donc petit à petit que la fréquentation remonte dans les salles de cinéma. Ça prouve que l'offre est riche et que les gens ont envie de retourner dans les salles.
C'est extatique pour moi. Je trouve que tous les signaux sont au vert. Le cinéma se porte bien, ses poumons sont bien gonflés. Babylone, 1,5 million d'entrées. Spielberg, 829 000. Au moment où je parle, mais peut-être le million bientôt, des films qui n'ont pas marché ailleurs, mais qui marchent en France. Preuve que la France est une terre de cinéma et de passion.
Et on voulait quand même souligner...
Je ne peux plus rien dire derrière cette exaltation de Mehdi Omaïs, mais bien sûr, je suis entièrement d'accord.
Moi, j'aime beaucoup quand vous vous emballez comme ça.
Tous ces chiffres-là, ça donne le tournis.
Je continue avec des chiffres.
On
a bien compris, oui.
On va le surnommer chiffre d'ailleurs, comme dans James Bond. Non, mais on voulait vous signaler la nouvelle performance d'Alibi.com 2 en 7e semaine grâce au printemps du cinéma qui a fait rire plus de 300 000 spectateurs supplémentaires. Conséquence, le film est devenu avec 3 870 000 entrées le plus gros succès de Philippe Lachaud et de la bande à Fifi devant le premier Alibi.com en 2017 qui avait rassemblé 3 580 000 personnes et c'est le deuxième plus gros succès de l'histoire de son distributeur Studio Canal. Alors maintenant, la question, monsieur Chiffre, va-t-il dépasser les 4 millions de spectateurs?
Franchement, je pense que oui.
Pourtant, je suis pas Madame Chiffre.
Je suis d'accord avec Madame Chiffre.
Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle pour le cinéma français.
En fait, ma belle-famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage.
Ah merde. Ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père.
Fiston ! C'est pas moi le problème, c'est ta psychopathe de mère.
Mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux parents comme on a fait pour le fils de Francis Lalanne.
Voilà un petit extrait d'Alibi.com. On ne boude pas notre plaisir à le réécouter. Gérard Jugnot, Ariel Dombal, Didier Bourdon, Nathalie Baye, évidemment toute la bande à Fifi, plus des guests. Bref, un film qu'on aime beaucoup. On part maintenant direction Los Angeles pour le JT d'Hollywood de notre Didier Allouche.
Europe 1, clap. Le JT d'Hollywood, Didier Allouche.
Salut Laurie, salut à tous. Cette semaine, je vous emmène au Texas. C'est à Austin que s'est déroulé jusqu'à dimanche dernier le festival South by Southwest, un événement multiculturel surtout connu pour ses concerts pop, ses expos décalés et ses fêtes de ouf qui durent jusqu'au petit matin. Bref, de très bonnes raisons d'aller y faire un tour, à laquelle on peut maintenant y ajouter une excuse boulot puisque South by Southwest devient un rendez-vous cinéma de plus en plus important. L'an dernier, c'est là que les Daniels ont présenté en avant-première mondiale leur Everything, Everywhere, All at Once avant leur triomphe récent aux Oscars. Du coup, cette année, tout le monde voulait y aller. De l'indépendant en version comédie raunchy avec Joyride, aux grosses productions comme John Wick 4, en passant par les films avec stars à la manette comme le nouveau Ben Affleck, Air, ou les films d'horreur très attendus comme le nouveau Evil Dead. Tout le monde voulait son label South by Southwest. Et les studios se servent aussi du festival comme rampe de lancement de leurs énormes machines. Un film comme Donjons et Dragons, énorme film de studio, s'adresse directement au public d'Austin, un public très porté sur la pop culture un poil geek, puisque le film est basé sur un jeu de rôle auquel tous ceux qui étaient dans la salle d'Austin ont au moins joué une fois dans leur vie. Le public est donc bienveillant. À Austin, le terrain est conquis d'avance. La projection de Donjons et Dragons fut un triomphe fondateur de bouche à oreille plus que favorable. South by Southwest est donc au-delà du simple festival de cinéma, c'est presque devenu le premier festival influenceur. Pas étonnant donc que tout Hollywood s'y retrouve.
Merci beaucoup Didier pour toutes ces informations passionnantes. Ne bougez pas dans un instant, c'est Élodie Bouchez qui sera en direct sur Europe 1 pour parler du film « Je verrai toujours vos visages » qu'on adore. A tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes toujours sur Europe 1 pour Clap, votre rendez-vous cinéma. Et cette semaine, on va s'intéresser à un film bouleversant d'humanité. Je verrai toujours vos visages. C'est le nouveau film de Jeanne Herry après Pupille qui sortira en salle le 29 mars. Et pour en parler, l'une des comédiennes du film qui était déjà à l'affiche de Pupille, le précédent film de Jeanne Herry, c'est Élodie Bouchez. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Alors, je suis ravie de vous recevoir pour parler de ce film absolument bouleversant. Comme toujours, avec Jeanne Herry, vous aviez tourné Pupille, je viens de le dire. C'était déjà un sujet fort de société, les familles d'accueil, l'adoption, mais traité de façon très documentée, mais également très solaire. On retrouve la patte de Jeanne Herry dans « Je verrai toujours vos visages ». Vous aviez envie de retravailler avec elle après Pupille déjà? C'était très présent dans votre esprit?
Envie, bien sûr. Je l'espérais aussi, mais on n'est jamais sûr, les acteurs, de pouvoir avoir l'opportunité de retravailler avec un metteur en scène. C'est eux qui décident.
Alors, au cœur du film, c'est le sujet, c'est la justice restaurative, qui est peu connue en France. C'est vrai que moi, j'ai découvert ce film, je n'avais jamais entendu parler de ça. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce que c'est que la justice restaurative?
Oui, alors c'est vrai que personne ne connaît. Alors, il faut savoir que la justice restaurative, elle est inscrite dans nos lois depuis 2014 déjà. Mmh. Et que c'est un outil complémentaire à la justice pénale qui consiste à faire dialoguer des auteurs d'infractions et des victimes. Concernés ou non par la même affaire, dans le but de rétablir le lien social et éventuellement de prévenir au mieux la récidive.
Alors c'est ce qu'on voit dans le film justement, c'est vraiment un film avec deux histoires en parallèle. Vous venez de le dire, des victimes qui rencontrent des auteurs d'infractions, pas forcément de la même. Et là dans le film, on a les deux cas de figure. Vous, votre personnage, c'est Judith, c'est une médiatrice qui accompagne Chloé, jouée par Adèle Exarchopoulos, qui a été agressée sexuellement par son frère et qui souhaite engager un processus de discussion avec lui. Votre personnage, il est magnifique, Élodie, elle est tout en retenue et en même temps, je suppose que c'est un rôle qui secoue.
Oui, c'est le rôle que tiennent ces médiateurs et cet endroit d'écoute très très spécifique qui ne ressemble en rien à l'écoute et au dialogue qu'on peut faire dans la vie de tous les jours entre nous tous. Elle nécessitait un travail assez physique. Au final, je m'en suis rendu compte après, même si Adèle Exarchopoulos et moi, on a joué tout le film quasiment de part et d'autre d'un bureau. Cette écoute à la juste distance demande quelque chose de très physique, paradoxalement.
Oui, et puis ce qui est compliqué pour votre personnage, et je crois que c'est vraiment ce qui est au cœur de la justice restaurative, c'est que chacun est mis sur un pied d'égalité, finalement. Il y a des scènes d'ailleurs assez bouleversantes avec le personnage d'Adèle, qui ne comprend pas que vous ménagiez son frère, qui est le criminel.
Oui, enfin, je l'écoute. On ne le voit pas dans le film, mais j'accompagne également donc l'auteur. On les appelle les auteurs, en fait. Au même titre que je l'accompagne, elle aussi, cette victime, dans le but de les préparer au mieux, l'un et l'autre, à cette rencontre, si elle peut avoir lieu. Et c'est une écoute bipartiale, finalement, où on ne juge pas, on ne commente pas, on n'oriente pas, mais on récolte les récits et on prépare les gens.
De façon la plus neutre possible. Mais on voit d'ailleurs Élodie Bouchez dans la façon dont vous parlez du film. C'est comme si vous aviez été vraiment formée à cette justice restaurative, alors que je crois que vous avez rencontré personne en amont. Elle souhaitait, Jeanne Herry, que vous soyez vraiment sur le scénario, mais que vous ne rencontriez pas de personnes qui exercent cette justice.
Oui, c'est vrai. Aucun de nous, les acteurs, ne s'est documenté de son côté en rencontrant des victimes ou des animateurs ou des médiateurs de la JR. On appelle la justice restaurative comme ça. Et on s'est tous appuyés sur le scénario et la partition absolument magnifique de Jeanne et ultra détaillée. On savait que Jeanne était là pour nous aider, nous orienter, répondre à toutes nos questions, nos interrogations et nous guider. Et c'est vrai que je les ai rencontrés, les médiateurs et les animateurs, que plus tard dans le processus, à la toute fin du tournage, en fait. Ils sont venus nous visiter un jour. Et j'ai vu en eux ce que j'ai lu dans le scénario et dans ces personnages que Jeanne avait écrits, c'est-à-dire des gens ultra sensibles, ultra bienveillants, qui ont une foi absolue en l'humanité.
Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement ?
Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants.
On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups.
En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie.
Assume ! Nous sors pas tes excuses débiles, là !
Tu le prépares pas, en fait ! Moi, tu me prépares ! Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers !
Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, bah, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu.
Comme dans Pupille, les personnages sont très humains dans Je verrai toujours vos visages. Et ils ont cette conviction du pouvoir du groupe. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve, je trouve, dans le cinéma de Jeanne Herry.
Oui, je crois que c'est une de ses obsessions. le lien, le groupe, le collectif, la troupe, elle vient du théâtre, Jeanne. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, de fabriquer quelque chose ensemble. Et c'est vrai que ce film, on l'a fabriqué tous ensemble, avec toute cette troupe... formidable d'acteurs.
Oui, alors on va en parler de tous les acteurs, vous êtes très nombreux, mais au bout du compte, pour vous, Élodie Bouchet, c'est un film sur quoi ? Sur effectivement la nécessité du dialogue, de la parole, sur le pardon aussi ?
Alors le pardon peut intervenir ou pas. C'est pas le but, je pense, de la justice restaurative, mais le but, c'est de responsabiliser les auteurs, d'instaurer une écoute et un dialogue, de se mettre à la place de l'autre. Je crois, de créer de l'empathie. Et je pense que c'est ce qu'elle a réussi, Jeanne, en faisant une fiction et un vrai film de cinéma. C'est de mettre en avant la puissance du cinéma et la puissance de l'empathie, et donc de se mettre à la place des autres.
Et que chaque acte a une conséquence. Et ça, c'est très bien illustré dans les scènes en prison, qui est donc l'autre histoire parallèle dans laquelle il y a Gilles Lelouch, Laila Bekti, Miu Miu, Dali Ben Salah. Voilà, ces scènes en prison qui confrontent des
groupes de parole.
Exactement,
oui.
Avec des détenus et des victimes. On voit à quel point un incident qui pourrait paraître anodin, le vol d'une petite mamie, on se dit, bon, on lui a volé son sac à main, c'est pas si grave. Mais en fait, qu'est-ce que ça engendre derrière ? À quel point c'est handicapant pour les victimes ?
Oui, parce qu'on est tous différents devant la violence qu'on peut rencontrer chaque jour. Il y a des personnes pour qui les conséquences et les répercussions de ces actes-là sont dramatiques. Puis d'autres, pas, heureusement. D'autres qui s'en remettent très vite. Et la justice restaurative s'intéresse à ça, à la conséquence et aux répercussions de ces actes.
Vous avez ressenti quoi, Élodie Bouchet, quand vous avez vu le film terminé ? Puisque vous aviez, donc, je pense, même pas croisé tout ce qui se passe en prison avec tous les autres acteurs.
Oui, c'est vrai qu'il y a ces deux espaces parallèles que sont le groupe de parole au sein de la prison, et puis tout ce qui se passe entre Adèle et moi. Et on a tous réagi de la même façon, c'est-à-dire que même si on avait lu le scénario qui, malgré tout, ressemble énormément au film, on était au cinéma et on découvrait le travail et l'histoire de chacun.
Et c'était
très fort. Très émouvant, oui. Oui.
Bah, le film est très fort, hein, je rappelle. Ça s'appelle Je verrai toujours vos visages. C'est au cinéma la semaine prochaine, le 29 mars. Ça fait partie des films qu'il faut aller voir parce qu'on découvre un univers qu'on ne connaît pas. Et puis c'est vrai que c'est tellement bouleversant d'humanité et de bienveillance et d'empathie que ça fait quand même beaucoup de bien. Élodie Bouchet, vous avez dit récemment, parce que vous avez quand même cette image assez, assez discrète, vous avez dit cette phrase que j'aime beaucoup, « Je ne brille pas dans les dîners, je suis celle qui va rencontrer le monde avec le texte des autres. »
Celle qui va raconter le monde, mais rencontrer, ça marche aussi.
Ah, ça marche aussi, c'est
ça
vrai.
Ça marche bien aussi. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on... On demande souvent aux acteurs pourquoi ils sont devenus acteurs. Et puis moi je ne sais pas si je sais, je ne sais pas si j'ai envie de savoir. Mais puisqu'on me pose la question, j'arrive à formuler quelque chose au fil du temps. Et je crois que c'est ça. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que pour avoir une voix, je fais ce métier pour pouvoir parler de ce qui m'intéresse, pour pouvoir lever le poing et raconter le monde. J'ai besoin de la voix des autres pour qu'elle devienne la mienne, en fait. Je ne sais pas si c'est clair, mais...
Si c'est clair, et les films de Jeannery permettent cela, justement.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Élodie, vous restez à mes côtés.
Oui,
bien sûr. On va parler des films de votre vie. À tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap sur Europe 1. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est votre pause cinéma du week-end. Je suis en compagnie d'Élodie Bouchet, qui sera à l'affiche le 29 mars de Je verrai toujours vos visages aux côtés d'Adèle Exarchopoulos, Jean-Pierre Darros, Gilles Lelouch, Jaleh Bekti ou encore Miu Miu. Vous êtes nombreux à l'affiche de ce film choral, un film qui parle de justice restaurative et de reconstruction, de droit aussi peut-être à une seconde chance. Qu'est-ce que vous en pensez, Élodie ?
Oui, le droit tout simplement de se reconstruire et de se réparer, aussi bien pour les victimes que pour les auteurs d'ailleurs.
Un film bouleversant que je vous encourage à découvrir au cinéma. Alors justement, on va parler cinéma avec vous. Si je vous demande, Élodie, votre première grande émotion au cinéma ?
Il me semble que c'est Bambi.
Donc que vous avez découvert au cinéma avec cette scène quand même terrible.
Oui.
De la maman, vous aviez quel âge, vous vous en souvenez ?
Je disais il me semble parce que c'est toujours vague hein, les souvenirs
oui,
de la toute petite
oui,
enfance
mais oui.
D'après ce qu'on m'a raconté c'était ce film là et puis voilà, de pleurer
et c'est vrai quand on est tout petit bah, finalement ça fait du bien de découvrir qu'on peut pleurer devant un film
oui.
Et puis Bambi ça nous a tous marqués. Voilà, la musique qu'on aime beaucoup,
je crois que c'est le premier film que j'ai emmené voir mes enfants.
Bambi ?
Oui, aussi.
Parce que moi, j'hésite. Hein. Mais bon, ils ont 2 et 4. 4, on va pouvoir commencer à y aller. Bah oui, c'est tellement mignon, Bambi. Alors, je crois que là, on va passer à un autre style de film, puisque je vais vous demander, Élodie Bouchet, votre meilleur souvenir de cinéma.
Alors, mon meilleur, je ne sais pas, mais un des souvenirs forts de séance de cinéma, ça a été la projection du film de Larry Clark, Kid, à Cannes. Je crois que c'était lors de la première année où je suis allée à Cannes pour la présentation de « Des roseaux sauvages » de Téchiné. Et j'allais voir plein de films, je ne savais pas ce que j'allais voir. L'essentiel était de réussir à pénétrer dans ces salles, d'obtenir des tickets. Et à un moment, en plein après-midi, je me trouve devant ce « Kids » de Larry Clark et cette scène d'ouverture absolument hallucinante sur cet écran et dans cette salle majestueuse du Festival de Cannes. Et ça a été un choc. Un choc de cinéma.
Et c'est un film, c'est drôle, on en a parlé il y a quelques semaines dans l'émission. Mais c'est vrai que c'est un film qui a marqué toute une génération. Je rappelle, Élodie, que vous avez joué dans La vie rêvée des anges d'Éric Zonka. Vous avez incarné aussi une certaine vision de la jeunesse.
Oui.
Dans vos films.
Bah oui, parce que j'ai eu la chance que dans ces années-là, le début des années 90, quand j'ai commencé à faire du cinéma, il y a eu une espèce de renouveau dans le cinéma avec une émergence de nombreux jeunes réalisateurs qui fabriquaient leurs films avec nous, ces jeunes acteurs, qui racontaient leur histoire, leur jeunesse, qui ils étaient à travers nous. Et j'ai vraiment profiter de cette période-là à leur côté. Voilà.
Alors justement, je vais vous demander votre séance de cinéma la plus dingue.
Alors, c'est encore à Cannes. Parce que c'est vrai qu'à Cannes, il y a des choses incroyables qui se produisent dans cette salle. Et c'est le film de Vincent Gallo, de Brown Bunny. C'était vraiment une séance typique de ce que peuvent être les séances... controversé à Cannes avec deux clans. Le clan des gens qui huent le film et qui sont révoltés, qui quittent la salle en hurlant.
Il y avait une scène de sexe très...
Oui. Voilà.
Très attendue.
Voilà. Et puis le clan de ceux dont je faisais partie qui adorent le film. Et voilà, là, c'est vibrant.
Avec Chloé Sévigny, un film d'auteur onirique. Et puis c'est vrai qu'il était fort ce film, et très attendu à Cannes. Mais parfois les films qui sont attendus à Cannes, pas forcément attendus pour les bonnes raisons. Pour se faire huer ou pour faire une standing ovation d'une demi-heure. Le film qui vous fait le plus rire ?
Les bronzés, hein, les bronzés.
Et là, on a l'embarras du choix.
Et il y a quel pourcentage de filles pour un mec?
Ça dépend du mec, ça.
Mais bouffez-le! Bouffez-le!
Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Le planté de bâton ne va pas du tout.
Le planté de bâton, ouais. Le planté, ouais, le bâton, ouais.
Bonsoir, nous allons nous coucher.
Bonsoir, nous allons les niquer.
Bon, bah voilà.
Voilà.
On en a choisi une classe. Bon, mais c'est vrai que ça, c'est fou, hein, depuis tant d'années. Les bronzés au soleil, les bronzés font du ski, voilà. Tous les films du Splendide d'ailleurs, Père Noël est une ordure ou autre.
Oui, oui, oui.
Intemporel, on ne s'en lasse pas.
J'ai vraiment grandi avec ces films-là. Et puis, je me souviens, et encore maintenant d'ailleurs, du plaisir. Quand sur le programme télé, il y avait marqué que les bronzés allaient passer le soir. C'était vraiment réjouissant.
Et ça continue. Hein. Et puis dès qu'on les voit à la télé, on reste.
On
et puis ce qui est bien, c'est comme on connaît par cœur, on peut le prendre à n'importe quel moment du film. Normalement, ça marche.
Voilà.
Élodie Bouchet, le film qui vous fait pleurer à chaque fois?
Kramer contre Kramer. Je vous avoue que je ne l'ai pas revu. Que lorsque je vois qu'il passe... sur une chaîne, j'arrive pas à y retourner en fait, mais j'ai un souvenir très marquant du film. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a marqué?
Enfin, c'est un grand film de cinéma. Moi, j'étais pas cinéphile quand je l'ai vu. Je l'ai vu assez jeune. J'ai vu à la télévision et j'ai eu un choc de cinéma déjà, mais de ce que j'aime au cinéma, c'est-à-dire d'émotion.
Et de grandes interprétations, hein, Meryl Streep, Dustin Hoffman. Et ben, ce couple qui se déchire. C'est vrai que ce film, il nous tire les larmes.
Ce jour-là, j'ai dû rentrer parce que mon enfant était souffrant. Il avait...
Monsieur Kramer, avez-vous, oui ou non, manqué une date de remise, oui ou non?
Mon fils était malade.
Monsieur Kramer, répondez à la question.
Mais j'essaye de répondre à la question, ce n'est pas oui ou non. Moi, j'étais là dans
Monsieur
mon service.
Monsieur Kramer,
lui,
oui
lui,
ou non?
Il avait 40 de fièvre à la maison et il était au lit, tout en âge. Je suis rentré pour être avec mon gosse, qu'est-ce que vous auriez fait?
Monsieur Kramer, je vous enjoins de vous reprendre, sinon je vous condamne pour outrage à magistrat.
Moi, ça me fait... Moi aussi, ça me fait pleurer à chaque fois. Votre comédie romantique préférée?
Alors, ce serait Pretty Woman. La découverte. La découverte de cette bombe.
Julia Roberts.
Ouais, de ce soleil.
Et de cette musique.
Oui.
Aussi. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Comédie culte de Gary Marshall. Mais c'est vrai que ce film, il est juste dingue.
Oui.
Cette scène de fin, où il va en bas de son immeuble avec sa voiture. On aime beaucoup. Et hein, c'est vrai que Julia Roberts, elle a... tellement marqué. Ah bah moi j'ai pas envie de couper la chanson, hein. C'est un problème à chaque fois qu'on cite Pretty Woman. Ça nous met de bonne humeur samedi après-midi sur Europe 1, ça fait du bien. On va passer au film que vous conseillez à un enfant.
Alors je crois que ce serait Dumbo. Mm-hmm. Même s'il y a un côté hallucinogène.
Oui, un peu, oui, c'est vrai.
Mais
Et Dumbo pourquoi alors? Pour l'acceptation de soi, la différence?
Oui, parce que c'est un film qui moi-même m'a marqué. C'est un film que moi j'ai beaucoup montré à mes enfants, qu'on a regardé souvent. Et puis pour ce petit Dumbo,
qui est trop mignon.
Ouais.
Dumbo, regarde ce que j'ai! La plume magique! Tu vas pouvoir voler!
Oh zut, y a rien à faire, c'est rampé. Ça doit être encore une farce de...
Ah! Nom d'un petit bonhomme! Mais tu voles! Tu voles!
Bon, puis pour voir un éléphant qui vole, hein. Oui. C'est pas si courant. Hein. Alors, Élodie Bouchet, une réplique culte de cinéma?
Alors, ce serait dans Le Dernier Métro. Vous êtes belle, Elena, si belle que vous regardez, est une souffrance.
Et film de François Truffaut.
Tu es belle, Elena, si belle que te regarder est une souffrance.
Très grand film de François Truffaut avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu pour cette réplique. 10 Césars à l'époque. Je crois que c'est l'un des plus grands succès de François Truffaut. Si vous ne deviez garder qu'un seul film de votre filmographie?
Je crois que spontanément, je garderais La Faute à Voltaire d'Abdelatif Kechiche, qui était son premier film, qui est un film que j'adore, qui est un grand film, qui n'a pas été encore complètement découvert, malgré le succès de ses films qu'il a fait après. Et voilà.
Et vous l'avez souvent dit, j'ai souvent lu ça dans des interviews de vous, hein, que vous avez vraiment aimé tourner ce film.
Oui, on a beaucoup aimé tourner ce film, Horatica, Samy Bouajila et moi-même. On a adoré travailler avec Abdel, on a adoré son investissement,
son exigence
et son intensité. Voilà.
Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je t'attire. Si, ça veut dire ça. Tu m'attires, donc ça veut dire que je t'attire. Mais comme tu veux pas me le dire, tu viens dans mes rêves pour me le dire quand même. Ça te fait rire.
Moi, j'adore votre voix. J'adore votre voix, j'adore vous écouter à la radio. Pour terminer, Élodie Bouchet, quel serait le titre du film de votre vie ?
La grande aventure.
C'est pas mal. Et c'est une belle aventure que vous vivez.
Oui, bien sûr.
Et nous, on adore vous voir et vous suivre depuis tant d'années. Merci beaucoup d'avoir été dans cette émission.
Merci beaucoup.
Je rappelle donc que vous serez à l'affiche de Je verrai toujours vos visages, le nouveau film de Jeanne Herry, le 29 mars au cinéma. Un film qui compte pour vous, je suppose.
Oui. Bon,
comme tous vos films, je sais que vous les faites avec toujours beaucoup de sincérité.
Oui, mais il y a des films comme celui-ci. On l'a vu là en parcourant la France, en présentant le film. Il y a des films qui sont nécessaires et qui mettent en lumière quelque chose qui mérite d'être vu.
C'est pour ça que vous allez nous faire confiance et aller dans les salles de cinéma. Le 29 mars, ne bougez pas. Dans un instant, Sophie Rosemont et Mehdi Omaïs vous diront tout ce qu'il faut savoir sur les films à découvrir ce week-end au cinéma. En attendant d'aller voir, Je verrai toujours vos visages. A tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Nous sommes de retour dans Clap, votre émission cinéma du week-end sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va maintenant discuter des films à voir ce week-end au cinéma. Au programme, le retour de John Wick. Oui, vous êtes contents, je le sais. Mais aussi un thriller politique haletant. On parlera également d'une histoire de fantômes et d'un mélodrame sur un couple très soudé. Autour de la table, toujours à mes côtés depuis le début de cette émission, Sophie Rosemont. Et Mehdi Omaïs, ça va toujours ?
Scott toujours !
Extraordinaire !
Alors avant de parler des sorties salles, on va faire un point sur le box-office. Le trio de tête du box-office est exactement le même que la semaine dernière. Attention, est-ce que vous avez bonne mémoire ? Première position ?
Creed 3 !
Creed 3 qui ne baisse pas la garde et qui reste toujours leader pour la troisième semaine consécutive. Donc 385 517 spectateurs supplémentaires, ça fait un cumul de...
2 millions quasiment.
Voilà, 2 millions d'entrées en 3 semaines. Juste derrière, à la deuxième place...
Scream 6 !
Scream 6 qui a effrayé 372 000 et quelques personnes. Ça fait... Ils sont presque au million, hein, 837 426 entrées en 14 jours.
Ce qui est beaucoup mieux que le précédent.
Bravo. En troisième position, le...
Antoine ?
Mon crime,
c'est la même que la dernière fois.
Mais bien sûr,
mon crime, à chaque fois, ça me remplit de joie.
J'ai voulu me mettre
dans le sillage de Mehdi Omaïs, il me met la pression, alors je raconte n'importe quoi. Voilà,
non, c'est bien d'avoir tenté. Mon crime, nouveau film de François Ozon, 309 967 spectateurs supplémentaires, ce qui nous fait un total de 737 358 tickets vendus en 2 semaines. Enfin, juste un mot pour la Chambre des Merveilles, puisque nous recevions Lisa Azuelos et Alexandra Lamy la semaine dernière. Le film a bien démarré avec 300 000 spectateurs en une semaine. On commence notre tour d'horizon en marchant sur les chemins noirs. Jean Dujardin dans ce film réalisé par Denis Imbert qui est l'adaptation de l'œuvre de Sylvain Tesson qui revient sur sa traversée de la France à pied après un très grave accident qui l'a fortement diminué. On écoute tout de suite ce que vous en avez pensé.
C'est un bouquin qui est pourtant pas adaptable et c'est une magnifique adaptation. Dujardin est formidable, la France est magnifique. Superbe film.
J'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup la randonnée, donc ça m'a plu quoi.
J'ai beaucoup aimé. Ça parle à tout le monde. Jean Dujardin, il est exceptionnel comme dame.
J'ai trouvé ça très beau comme film.
On commence avec la sortie de la semaine, c'est John Wick chapitre 4. Keanu Reeves, oui, moi je le dis à la française. Vous le dites comment, Mehdi, Sophie ?
Keanu.
Keanu. Mais je crois que c'est la prononciation de Mehdi qui est la bonne, mais on va faire.
On va offrir de la diversité,
la prononciation
on va pas
de Keanu
Reeves.
Bon, en tout cas, voilà, moi je le dis avec mon accent à couper au couteau. Keanu Reeves reprend son rôle du tueur à gages invincible pour en finir une bonne fois pour toutes, on l'espère, avec la grande table, une très grosse organisation criminelle. Plus d'ennemis, plus d'armes, plus de combats, c'est une course-poursuite effrénée à travers le monde entier. Et surtout, chez nous, en France, c'est simple, il est seul contre tous.
Tu es prêt, John ?
Oui. Et qui est-ce ?
Le marquis de Grammont. Je vais avoir besoin d'une arme.
Goodbye, my friend. It's hard to...
Qui commence ?
On
Sophie.
A pas mal de choses à dire tous les deux avec Mehdi, mais je pense qu'on sera d'accord sur le fait que là, le film d'action est ici à un niveau très élevé, quasiment conceptuel, extrêmement chorégraphique, hein, parce qu'elle est calquée sur les films hongkongais. Et là, on voit tout de même Keanu Reeves lutter face à Donnie Yen, qui est un grand maître du kung-fu. Ça n'arrête pas. C'est-à-dire que ce qui est quand même dingue, c'est tout ce qui se prend, parce que, ok, il se bat, il tire sur tout le monde, mais on lui tire aussi dessus, est toujours vivant.
Bah,
et puis surtout,
sûr.
Cette scène culte hein, dans les escaliers du Sacré-Cœur, qui dévale un nombre incalculable de fois, mais peut-être que Mehdi Houmaïs a compté, vu son amour des chiffres. Et à chaque fois, il se relève. Moi, je trouve ça impressionnant. Ensuite, j'avais très peur de la durée, 2h50. Et au final, j'avoue, ça passe tout seul. Et pourtant, vous me connaissez, Laurie, les films d'action, a priori, c'est pas trop mon truc.
C'est vrai.
Bah moi, c'est pas passé Mehdi. Tout seul, les 2h50, j'avoue. Et j'étais venu pour qu'on me casse la gueule, pour voir des gens se faire casser la gueule, parce que c'est un peu le but. On s'attend pas à avoir un scénario bergmanien, hein, Laurie, quand on va voir John
Bien
Wick,
sûr.
À fortiori,
oh, rien, hein.
Le numéro 4. Mais en tout cas, alors, la longueur, le fait qu'aussi, il y ait des personnages qui soient très creux, enfin, l'intrigue, elle tient sur un timbre-poste. Il y a vraiment 1h30 qu'on aurait pu amputé. Il n'empêche que, sans être non plus le champion du monde du film de combat, parce qu'on a Red et Red 2 qui ont tué le game il y a quelques temps, ça reste extraordinairement chorégraphié, effectivement. On rappelle que Chad Stahelski, le réalisateur, est un cascadeur à la ville, donc il sait ce qu'il filme, il kiffe ce qu'il fait, et nous, on kiffe ce qu'on regarde. La scène de Paris, les deux morceaux de bravoure, une autour de la place de l'Étoile, c'est pas la vraie place, hein, et la deuxième sur les escaliers de Montmartre, là, c'est incroyable. Et dernière petite chose, moi, je kiffe voir Keanu Reeves. Dès le début, on lui dit « John Wick », et il répond « Yeah !» avec un accent, on ne sait pas s'il rote ou soupire, mais c'est
oui,
absolument génial.
C'est très
génial.
Très long, la et manière dont voilà. il parle, c'est très très long.
Bon, et juste un mot sur la disparition de Lance Reddy qui jouait Sharon, le concierge de l'hôtel Continental, et voilà, qui a disparu à quelques semaines de la sortie française du film. Je sais que Keanu Reeves a été très affecté, on a parlé aussi dans ses interviews.
Absolument.
On va écouter vos réactions à la sortie des salles de cinéma.
Keanu Reeves, immortel. Il se prend pas au sérieux, je pense, dans ce film, donc c'est ça qui est plutôt cool.
Toujours bien, il est un peu vieillissant, mais bon, ça fait quand même 4 films qui se fait tabasser sérieusement, donc c'est normal qu'il s'équelle un peu.
Il y a plein d'actions, du début jusqu'à la fin.
En termes de films d'action, franchement, c'est quand même un des meilleurs films d'action sortis récemment.
J'ai trouvé ça vraiment génial. Les scènes d'action, les chorégraphies, ça conclut très bien la quadrilogie. Franchement, parfait.
Et puis, ça donnera surtout envie aux gens de visiter le Sacré-Cœur.
Faites bien, Keanu Reeves. On continue avec un thriller politique de grandes espérances, un film ambigu mené par Rebecca Marder, Benjamin Lavergne, aux côtés d'Emmanuel Berco. Ils sont en couple, tous les deux étudiants à l'ENA. Ils préparent donc leur grand oral, mais après un accident qui tourne à l'homicide, ils vont partager un lourd secret qui va les hanter et peut-être même sûrement entacher leur future carrière politique.
T'es sûr qu'il va pas parler, ton copain ?
Est-ce qu'Antoine est là ?
Tu le laisses tranquille maintenant.
Je vais être nommé au cabinet du ministre.
T'étais au courant ? Tu me l'as fait pas à l'envers.
Je vais pas y arriver. Te revoir, entendre parler de toi. Faut que tu disparaisses.
Putain de lâche, Antoine ! Si tu t'étais défendu, on n'en serait pas là.
Avec un bon avocat, je prends le sursis.
Il y a un truc que je sens pas chez toi. Il y a quelque chose que tu te dis pas.
Mehdi ?
La bonne nouvelle, c'est que ce type de cinéma qui est d'ordinaire l'apanage des Américains est en train d'arriver en France, le thriller politique. On s'en empare, on a envie d'en découdre. Ça a peut-être commencé, enfin, c'est revenu un peu avec l'exercice de l'État. Il y a eu d'autres films Enquête sur un scandale d'État. Et là, on a de grandes espérances. Je n'aime pas tout dans ce film, mais je salue son ambition qui est celle de mélanger les thématiques, le rapport au pouvoir, le transfuge social, il y a un côté drame social, thriller, deux comédiens vraiment au sommet, Benjamin Lavergne et surtout Rebecca Marder qui confirme après Mon Crime, Simone et Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlin, qu'elle est une des actrices sur lesquelles il faudra compter. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne surprise, quelques écueils, mais à voir.
Alors, est-ce que vous avez été conquis par de grandes espérances ? On écoute vos réactions.
J'ai bien aimé Rebecca Marder. Ça fait plusieurs films là, dans lesquels elle apparaît. Elle a un jeu à chaque fois super différent. Je ne m'attendais pas à la fin. On voit les rouages un peu du politique. Ouais, j'ai bien aimé.
Oh, j'ai bien aimé. Très, très, très bien. Très bien joué. Un bon scénario. Très intéressant.
Dans un autre style, Eternal, d'auteur de la réalisatrice Joanna Hogg, Tilda Swinton voit double. Elle campe à la fois le rôle de Julie, une réalisatrice en panne d'inspiration, mais aussi celui de sa mère. Une vraie performance. Les deux partent quelques jours dans un hôtel de campagne anglais, mais très vite, une présence étrange se dessine et le doute s'installe. J'aime beaucoup ce pitch. Qui veut commencer, Sophie ?
Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé. Effectivement, si on n'a pas de grande affinité avec les manoirs gallois perdus dans la brume, il vaut mieux ne pas regarder ce film qui peut être assez anxiogène. Mais le double jeu, à tout point de vue, de Tilda Swinton est absolument incroyable. Et au-delà de l'aspect à la fois fantastique, réaliste, gothique, parce que là, Joanna Hogg, elle mêle un petit peu tout dans ce que je considère l'un de ses meilleurs films, où il y a un petit peu de tension aussi, de suspense, ça change. Dans ce film-là, il est aussi question de rapport entre mère et fille, de transmission, de comment on surmonte les traumas, et aussi comment on se transmet, de manière même parfois tout à fait inconsciente, les traumas.
Écoute, moi, Laurie, j'ai eu le sentiment, entre le début et la fin du film, que 4 générations sont passées tellement le temps m'a paru long. Pourtant, c'était bien le début. Elles arrivent dans cet hôtel brumeux, la tenancière, elle est exécrable, etc. Mais la fausse bonne idée, déjà, c'est de faire Tilda Swinton 2 rôles. Ça ne sert pas à grand-chose, en vrai. On aurait pu avoir 2 actrices. Et en plus de ça, voilà, on voit venir le twist à 5 km à la ronde. C'est vraiment très, très poseur dans la mise en scène. Moi, je préfère regarder les autres d'Amenabar, ou regarder Relique.
Ah, mais ça n'a aucun rapport.
Ou regarder. Non, mais c'est un film. Ça se vend comme un film de fantôme.
Amenez-lui un petit verre d'eau.
Ou regarder Relique, qui est un film formidable.
Il s'énerve tout seul, là. Oui, mais non.
Tout rouge.
Mais parce que j'avais envie d'aimer ce film, et finalement, c'est hyper asthénique, vraiment hyper valiumique.
Mais c'est beau aussi, parfois, les choses valiumiques, comme vous dites.
Oui.
Bon, on termine rapidement avec Le Bleu du Caftan, l'histoire d'un couple, Mina et Halim, qui sont liés par un secret. Halim est homosexuel, mais s'y refuse par respect de la religion, de la tradition. Et Mina, de son côté, souffre d'un cancer, mais malgré tout, ils entretiennent une relation singulière et sensible. Alors, comme ça, le pitch n'est pas vraiment très gai, Sophie.
Oui, je peux l'entendre, et pas forcément très attrayant. Et pourtant, ce film est aussi subtil, aussi beau, aussi précieux que le caftan que brode Saleh Braki, cet acteur absolument extraordinaire, qui a peu de lignes sur sa partition, mais qui les habite littéralement. C'est très bien filmé par Marianne Touzani, d'ailleurs multiprimée dans plusieurs festivals, Le Bleu du Caftan. Et moi, j'étais extrêmement touchée. C'est assez contemplatif, je ne dirais pas valiumique, comme Médiumite, mais c'est assez contemplatif. Et en même temps, on est plongé dans cette médina marocaine.
C'est bien, il faut y aller à Vertu.
C'est très beau, oui.
Merci à tous les deux, c'est déjà la fin de ce clap. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Élodie Bouchès pour Je verrai toujours vos visages au cinéma la semaine prochaine. On en reparlera évidemment dans Clap, car c'est un vrai coup de cœur. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve pour Europe 1 Soir. Et je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouveau clap. Et d'ici là, continuez d'aller au cinéma.
Bah
ça
oui.
Y est, ils ont décroché, ils sont déjà à l'heure de l'apéro.
Bah oui, il faut aller au cinéma.
Toujours aller
c'est
au cinéma.
C'est la vie.
Voilà, merci. Très bon week-end à vous à l'écoute d'Europe 1.